Bonjour bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir le louer ce matin, l'adorer. C'est une reconnaissance à notre Dieu. Vivons les temps où nous avons ce privilège de pouvoir nous rassembler. Vivons-le comme un temps de reconnaissance à Dieu. Souvenons-nous toujours que dans le monde entier, il y a des chrétiens qui désirent, qui souhaitent se réunir, mais qui ne le peuvent pas. Parce que les conditions politiques, parce que les conditions sociales, parce que bien d'autres circonstances les en empêchent. Alors à chaque fois que Dieu nous donne la santé, qu'il nous donne du temps, prenons ce temps pour honorer le Seigneur en venant dans sa maison. Pour lui offrir un culte de reconnaissance. C'est de cela qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. J'aimerais continuer une série sur le thème de l'amour agapé, et que nous avons commencé avec la retraite des dames le 28 mai, et que j'ai développé le 4 juin passé, et que j'essaie de terminer aujourd'hui. L'amour agapé, l'amour de Dieu. Pourquoi ce thème? C'est une évidence, n'est-ce pas? Dans notre société, en général, même ceux qui ne sont pas chrétiens, on a tous à la bouche cette expression qui est commode, le bon Dieu. Ce qui sous-entend manifestement qu'il est bon. La question c'est s'il est si bon, pourquoi on n'y vient pas tous? Pourquoi on ne l'adore pas tous? En fait, des fois, on dit le bon Dieu pour juste parfois nous donner bonne conscience aussi, que d'une façon ou d'une autre, nous le connaissons. Mais ça veut dire quelque chose de plus profond. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, nous sommes conscients que quand même, il fait du bien aux hommes. Et c'est vrai. Mais ce matin, j'aimerais continuer la réflexion avec nous en tant que chrétiens. En tout cas, pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur et leur Seigneur, j'aimerais que nous questionnons un peu sur cette réalité de l'amour de Dieu. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions continuer, relire encore 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21. 1 Jean chapitre 4, verset 7 au verset 21. Je fais juste, à partir du verset 16, je saute les versets 17 et 18 pour vous dire tout de suite au verset 19. Et je le lis dans la version de la Bible qui s'appelle la Bible du Semeur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Verset 15. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'apôtre qui écrit cette épître, l'histoire nous dit que c'est un des apôtres qui a été marqué par l'affection de Jésus. Il semblerait, d'après quelques éléments bibliques, qu'il ait été le plus jeune parmi les 12. Et que parce qu'il était le plus jeune, Jésus lui a manifesté une affection qui était liée à son jeune âge. Et c'est pour cela que dans son évangile, il dit à un moment lui-même, le disciple que Jésus a tant aimé. Hein, c'est comme ça qu'il se nomme, parce qu'il a été marqué, touché par cette affection du Christ. Et on dit qu'en général, l'apôtre Jean, il y a deux thèmes qui sont massivement dans ce que Dieu lui a donné d'écrire. C'est le thème de la lumière et le thème de l'amour. Il aime parler de Dieu comme la lumière du monde, celui qui vient éclairer les ténèbres. Il aime parler de Dieu comme celui qui est amour. C'est une déclaration forte. Nous ne lisons comme ça simplement en français, mais cette déclaration est forte. Car Dieu est amour. La forme la plus haute et la plus noble de l'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé, qui voit dans l'être aimé quelqu'un d'infiniment précieux. Dieu, honnêtement, il se suffit à lui-même, puisqu'il est Dieu. Il n'a besoin de personne, puisqu'il est Dieu. Bien avant la fondation du monde, de toute éternité, il a toujours existé. Donc, qui sommes-nous pour qu'il s'intéresse à nous, en réalité? Nous faisons partie de sa création, mais pas de sa première création. Puisque nous existons à un moment donné de notre univers. Mais lui, il a existé de toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. On dit qu'il est au-delà de nos contingents temporaires. Le temps n'a pas d'emprise sur lui, parce que c'est lui qui crée le temps. C'est lui qui dit que le temps commence ici et ça se termine là. C'est lui qui décide tout par lui-même. David dit qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Il est son propre conseiller. Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui sommes-nous les bien-aimés pour que Dieu s'intéresse tant à nous? Vas-y, s'il te plaît. Qui sommes-nous pour que Dieu s'intéresse tant à nous? Et j'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin avec cette réalité de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu est amour. C'est l'apôtre Jean qui l'écrit. Et là, je vous cite un grand paragraphe d'un dictionnaire de théologie qui m'a semblé être intéressant pour notre méditation de ce matin. Cette déclaration de l'apôtre Jean est une déclaration unique. Elle est exclusive. Elle n'est faite que pour Dieu. Dieu est amour. C'est l'une des images de la gloire de Dieu. L'amour n'est pas un attribut de Dieu, c'est-à-dire l'amour n'est pas quelque chose que Dieu fait. On dit Dieu est tout puissant, c'est-à-dire qu'il manifeste sa puissance de façon extraordinaire. On dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. On dit que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Ça, ce sont ses attributs. On dit que Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais quant à l'amour, on dit Dieu est amour, ça dit que dans l'essence de Dieu, par essence, il est amour. Ça fait partie de son être. Il ne peut pas se dissocier de ça. Quand on pense à Dieu, son essence, son être, il est amour. Parce que les autres dieux manifestent bien des choses. Et la Bible a dit, en fait, ce n'est pas des dieux, c'est des constructions humaines. C'est des mentalités de des êtres humains influencés par le diable, qui se donnent des idoles. Et l'apôtre Paul dit, en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Toutes les constructions que les hommes se donnent, ils sont influencés par l'ennemi, par le diable, cet ange déçu et déchu qui fait croire à cause de telle ou telle manifestation qu'il y a d'autres dieux. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le credo d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a aucun autre Dieu que l'Éternel. L'apôtre Paul pouvait dire, peut-on comparer un morceau de bois à Dieu? Et les prophètes de l'Ancien Testament disent, mais vous adorez des idoles qui n'ont ni bouche ni oreille, qui sont des statues inertes. Et vous dites, voilà notre Dieu. L'Éternel n'a pas de comparable à cela, parce que l'Éternel n'est pas créé. Il dit, vous déshonorez l'Éternel en le comparant à sa création. Il dit, tous les autres idoles sont des créatures. Peut-on comparer la créature au créateur? Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous faisons aussi une erreur. Souvent, dans nos façons de penser, nous pensons que Satan est l'égal de Dieu. Satan, il n'est pas l'égal de Dieu, parce que Satan est créé par Dieu. Il est créé par Dieu à l'origine, bon comme un ange de lumière, Lucifer, qui s'est rebellé. Et sa rébellion l'a entraîné dans ce qui est devenu Satan, l'accusateur, le diable. C'est comme nous. Quand vous lisez le livre de Genèse, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, à chaque aspect de la création, ça finissait à chaque fois, c'est bon. Et quand il a fini de créer en 6 jours, on dit l'Éternel se reposa et disa, et il dit, mon œuvre est très bonne. Donc Dieu a créé, à l'origine, Dieu a créé tout bon. Mais comme c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu manipulateur, il nous a créé avec la liberté du choix. Il aurait pu nous créer comme des robots. Hein. Il n'a pas voulu. Parce qu'il nous a créé à son image. La Bible dit, Dieu dit, créons l'être humain à notre image. Donnons-lui. C'est pour ça que certains prophètes ont dit, ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Dans le sens où vous êtes sortis de Dieu et que Dieu a fait de vous des êtres un peu comme lui. Et il a très tôt averti notre père, notre ancêtre, en lui disant, je sais que je t'ai donné cette liberté-là, mais écoute-moi s'il te plaît, ne mange pas le fruit de cet arbre. Car le jour où tu en mangeras, tu auras plus tendance à faire le mal que le bien. C'est pas juste si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir sur le bien ou le mal. C'est le jour où tu vas manger, en fait, malheureusement, tu seras plus incliné à faire le mal que le bien. Et c'est ce qui s'est passé littéralement. Dès après avoir mangé ce fruit, Ève en a mangé. En tout cas, dans ma conception de ce texte biblique, Adam n'était pas loin. Puisque le texte dit, elle a goûté, c'était bon, elle lui a donné. Ça veut dire qu'il était là dans les parages. Il n'était pas à 200 km ni à 300 km. Il était là. Donc, il a vu toute la scène. Donc, quand souvent on dit, c'est Ève, c'est pas Ève tout seul. Adam était à côté. Le texte est silencieux, mais à un moment donné, je me dis, Adam aurait pu dire, mais ma chérie, n'écoute pas le diable, quoi. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais le texte reste silencieux parce que, justement, il a une responsabilité aussi dans cet acte de péché originel. Et quand il mange ce fruit, et que finalement, Dieu vient comme d'habitude pour converser avec eux, ils sont aux abonnés absents. Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai été entendu venu, je suis nu, je me suis caché. Oh! Depuis quand tu te caches de moi, Adam? Et puis la scène continue avec ce moment tragique qui me parle personnellement, où Dieu demande à l'homme, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, pour que tu désobéisses? Connaissez sa réponse? Quelle est sa réponse? C'est tout de suite, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est ça le mal. Si on remet les choses dans l'ordre, Dieu a tout créé et il a dit à l'homme, donne un nom à tout ce que j'ai créé. Je t'ai mis comme le chef de toute la création, n'est-ce pas? Mais on dit que le texte dit que malgré tout ça, il n'était pas tout à fait satisfait. Il y a quelque chose qui lui manquait. Et Dieu lui fait une anesthésie. Il sort de cette matière, un être qu'il va appeler lui-même, parce que c'est Adam qui va nommer. Quand il va se réveiller, il va l'appeler Ève. Il dit, cette fois-ci là, tu m'as trop béni. Ah, tout ce que tu as créé là, c'est vrai, c'est joli, c'est beau, mais c'était pas comme moi. Voici celle qui me ressent, celle qui est mon vis-à-vis, celle avec laquelle maintenant je suis au complet. Merci Seigneur. Bon, de là, en passant par la pomme, c'est pas une pomme, hein, par le fruit, parce que souvent on dit une pomme, on n'en sait rien du tout, c'est que c'est un fruit. Bref, et du reste, je sais pas si les pommes dont nous parlons, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Bref, en passant par le fruit qu'ils ont mangé, voilà que celle qui est son vis-à-vis, chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera ma femme qui est mon, comme moi. Parce que souvent, c'est une erreur. On dit que ça veut dire c'est la moitié de l'homme. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas qu'elle est ma moitié. Parce que on croit que c'est une belle image en disant la femme est la moitié de l'homme, 50%. Non, il dit elle est comme moi. Donc, ils sont tous les deux pareils, en fait. Mais ils sont complémentaires. Et cette unité-là fait qu'ils sont bien ensemble. Comment se fait-il qu'on est passé de ça, en passant par le fruit, à... Moi, j'étais bien, je respectais tout, mais c'est la femme que tu m'as donnée là qui a tout gâté. En gros, si tu ne me l'avais pas donnée, on serait bien toi et moi. Franchement, franchement. Donc, j'extrapole le texte, mais je préfère faire ça pour que vous puissiez comprendre comment on passe des choses à l'autre. On a fait remarquer que c'est un texte assez fort. Et que Dieu, dans cet amour, Dieu, il n'est pas seulement souverain. Dieu est une personne en qui, on dit, l'amour est si constitutif de son être qu'il ne peut pas davantage y renoncer, qu'il ne peut se détourner de la sainteté. On dit Dieu est saint. C'est-à-dire, Dieu, quel que soit ce qu'il fait, il reste saint. Il ne peut pas ne pas être saint. Et c'est pareil pour l'amour. Il ne peut pas ne pas aimer. Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il est. C'est pour ça que même quand il y a ce péché originel, tout de suite, il fait quoi? Il cherche la solution. Il veut sauver son homme. Il veut sauver l'être humain. Parce que c'est son amour. Et tout de suite, il va mettre en place le processus du salut pour récupérer l'être aimé qui s'est lui-même voué dans la déchéance. Ça fait partie de lui. Il ne peut pas ne pas aimer. C'est comme sa sainteté, c'est comme sa justice. Dieu est juste. Il ne peut pas ne pas faire en dehors de sa justice. C'est pour ça qu'il va juger le monde. Parce que Dieu est juste. Bien-aimé. Le Dieu dont nous parlons, le Dieu de la Bible, est une personne. Ce n'est pas une force. Et cet amour-là n'est pas quelque chose de... d'impersonnel, c'est quelque chose de vivant. L'amour dont nous parlons n'est pas d'abord un sentiment. Vous savez, j'ai dit souvent avec beaucoup de répétition, le sentiment fait partie de ce que Dieu nous a donné. Mais le sentiment est fluctuant. Le sentiment est quelque chose qui prend la couleur des moments, des circonstances et des événements. On peut se réveiller un matin avec un sentiment de joie. On peut se réveiller un matin avec un sentiment de tristesse. On peut se réveiller un matin avec le sentiment que la présence de Dieu m'a envahi. Et puis on peut se réveiller un matin où la présence de Dieu n'est pas là. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Lui, il est toujours là. Hein? Il est omniprésent. Que tu sois en joie ou pas, il est là. Ta joie ou ta tristesse n'enlève rien à sa présence. C'est ça le petit souci avec le sentiment. Le sentiment, il est comme ça. Il est comme ça. Des fois, dans nos familles, on a un sentiment de paix, d'harmonie, parce que tout se passe bien, content. Et puis il y a des moments où il y a des tensions, où c'est, oh, le sentiment, il est un peu mitigé. Et parfois, il vacille, il bascule de l'autre côté, dans la colère, dans la rancune, et dans l'atrocité des fois. Et notre société, là, depuis quelques mois, n'arrête pas de tomber dans cette atrocité où des hommes tuent leurs ex-compagnes. C'est quoi cet amour? C'est quoi cet amour humain qui est capable d'aimer quelqu'un à la folie et qui est capable de la tuer avec une atrocité sans nom. C'est quoi cet amour? Quand on aime quelqu'un, on ne l'embrigade pas. On ne lui veut pas du mal. Et c'est ça l'amour agapé. S'il y a quelqu'un qui aurait dû nous détruire, c'est Dieu. Et pourtant, quand Dieu a tout créé, il a dit c'était bon. Genèse 1:31. L'œuvre de sa propre main, de son caractère, ce qui n'est pas le moindre de son amour. C'est avec amour que Dieu a créé l'univers et encore plus l'être humain. Il gouverne avec providence, c'est-à-dire que malgré le fait que l'être humain, que le monde est un monde pécheur, n'empêche que Dieu fait du bien, même à ceux qui l'insultent. Et c'est ce qu'Azaf a dit. Azaf dit, ah, moi qui te loue là, je souffre. Pourtant, mon voisin, qui ne te connaît pas et qui des fois même t'insulte et qui sort, qui dit, toi, Dieu n'existe pas. Comme un certain philosophe, Dieu est mort. Il dit des gens qui disent ça, tu leur fais du bien quand même. C'est vrai que souvent on a envie de dire, Seigneur, cela, comme ce qu'on appelle les sommes d'implication, détruis-les. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Et David dit ça. David dit, je hais ceux qui n'aiment pas Dieu. Souvent, il dit, viens leur montrer qu'ils sont contre toi. Et puis après, il dit, c'est toi qui es souverain. La providence de Dieu montre son amour. Il fait pleuvoir sur les gentils comme sur les méchants. Un criminel peut faire du mal atrocement à quelqu'un et Dieu lui laisse la vie. Ah! On lui dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Mais c'est son amour pour tous. Vas-y, s'il te plaît. Tout le plan rédempteur de Dieu a pour ressort l'amour. C'est-à-dire, tout ce qu'il déploie depuis la chute originelle, ce qui le motive, c'est l'amour. Et ce qui est intéressant dans l'amour agapé, c'est même pas pour lui. C'est pour nous en plus qu'il fait ça. Et souvent, les parents me disent ça à leurs enfants. Ils disent, c'est pas pour moi, hein. Je fais ça pour toi. Je te dis ça pour toi. Parce que moi, j'ai quand même, voilà, j'ai une petite expérience. Hein. Surtout qu'on encourage les plus petits à aller à l'école. Voilà. Et moi, déjà, j'ai mon travail. Donc, c'est pas pour moi que je te dis d'étudier, hein, c'est pour toi-même. Et c'est vrai, en plus. C'est pour lui. Mais sur le moment, les gamins, ils comprennent pas. Il y a trop de règles. Il faut répéter. Il faut apprendre. Il y en a un peu marre et tout. Et puis, on dit, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Imaginez que ce père tendre, il est au-dessus de cette réflexion-là. Quand il nous dit des choses, c'est pas pour lui d'abord, c'est parce qu'il nous aime. Et si on met l'hypothèse qu'il connaît tout, qu'il sait tout, c'est parce qu'il peut voir les mauvaises directions que tu peux prendre. Lui, il peut anticiper, toi tu peux pas. Lui, il voit que le choix que tu vas faire peut être bien, il t'y encourage. Lui, il peut voir que la décision que tu vas prendre peut être mal, il veut te dissuader. Parce qu'il est omniscient. Il est omniprésent aussi. Hein. Le psaume dit, où irai-je loin de ta face? Me lèverai-je dans les cieux? C'est là que tu demeures. T'y voici. J'irai dans les profondeurs de la terre? Là encore, tu es là. Je dirai à l'obscurité la plus noire de me cacher. Il suffit que tu es là et tout devient lumière. Car pour toi, même l'obscurité est lumière. Je ne peux pas me cacher, tu es là. Mais ce n'est pas un reproche en fait. C'est une grâce. Ça veut dire ce Dieu est là, où que tu sois, il te voit. Il te voit. C'est une sécurité. C'est un amour ça. Nous quand les enfants sortent de la maison, on ne les voit plus. Hein? Ils sont partis. Tu as ton cœur de parent, il est à l'école, voilà. Parfois il y a un itinéraire qui prend tous les jours. S'il le prend, tant mieux. Mais s'il ne l'a pas pris, tu te dis, mais est-ce qu'il est vraiment arrivé ou pas? Et des fois, ça arrive, hein. T'appelles quand même l'école. Ne vous inquiétez pas, monsieur Oulaï. Il est bien en classe. Tu dis, ok. T'es apaisé. Parce que tu vois pas. Dieu, il voit partout. Il te voit où que tu sois. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Vas-y, s'il te plaît. L'amour du chrétien. Des fois, personnellement, je suis intrigué. Intrigué par ma façon d'être. Et je suppose, et je fais l'hypothèse que parce que je suis un humain, la plupart des humains font ça. On est capable des fois de... Attends, faut que je trouve mes mots. Nous sommes capables des fois de dégager un dynamisme, une énergie massive quand on est en colère. C'est-à-dire qu'on est en colère, on peut le rester comme ça en décidant que parce que je suis fâché avec l'autre, je vais rien faire avec lui et je peux le faire tant que cela me chante. Et j'emmagasine des énergies comme ça pour résister, pour lui montrer, pour dire que je suis pas content. Et ça dure des jours, et on tient bon. Je lâche rien. Parce qu'il faut qu'il comprenne. Ça peut pas continuer comme ça. Je lâche rien. Ça fait lâcher rien. C'est une énergie qui détruit. Hein. Vous savez quand vous êtes en... Mais vous n'êtes pas bien en fait. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui est en colère qui est bien. On ne peut pas être bien quand on est en colère. Parce que tout ce que ça suscite en nous, c'est que des énergies. Quand on dit énergie, ce n'est pas juste spirituel. Même le corps, il le ressent. On dit que pour sourire, on sollicite très peu de muscles faciaux. Pas moins de 5 ou 6. Mais pour se mettre en colère, oh, le nombre de muscles que tu sollicites pour te mettre en colère. Oh. C'est puissant. C'est puissant. Et pourtant, on aime ça. C'est drôle, hein? On aime ça. Parce qu'on aime plus se mettre en colère que vivre en paix. On est des champions de ça. Oh, nous sommes des champions de ça. Moi, ça me fatigue. Je dis à ma femme, ça me fatigue. Ça m'épuise. Ça me lâcher l'affaire. Si nous sommes les enfants de notre Père, mettons toute cette énergie, c'est ça la conversion, n'est-ce pas? Si c'est en kilogramme que tu convertis en litre, tu changes d'unité. Toute l'énergie que tu es capable là, que je suis capable de mettre dans la colère, dans la rancune, et mon frère, et ma sœur, convertis ça pour mettre ça dans tout ce qui est positif. Et en plus, Dieu dit, je t'ai donné une aide inconsidérable. C'est la troisième personne de la Trinité, il s'appelle le Saint-Esprit. Parce que de toi-même, tu ne vas pas y arriver. Mais le Saint-Esprit est venu pour te donner la force de faire ça. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car l'Esprit a des directives contraires à ceux de la chair. Il dit, si vous êtes né par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Oh, voici les œuvres de l'Esprit. La joie, la bienveillance, la bienséance, l'amour, la longanimité, la patience. Oh, que des choses qui te mettent en paix. Les fruits de l'Esprit guérissent même certaines maladies psychosomatiques. Il semble, je ne suis pas médecin, mais il semble que même les ulcères ont un lien avec notre état mental et sentimental et émotionnel. Quelqu'un qui a trop l'habitude de pour un rien, de se mettre en colère, en fait, il sécrète tellement de choses négatives, des enzymes négatives, que ça finit par abîmer son tissu intestinal. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Souvent, les chrétiens demandent des miracles. C'est un fait, un miracle. Le plus grand miracle que Dieu a fait, c'est de nous faire de nous des hommes et des femmes d'amour. C'est ça le plus grand miracle. Il a fait de nous des hommes et des femmes pétris de l'amour de Dieu. Et dit, vivez ça. Vivons ça. Vivons ça. Vivons ça. Saint-Esprit vient nous aider. C'est de ça qu'il s'agit, les bien-aimés. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis fatigué. Je me dis souvent, Serge, si tu es fatigué, et Dieu alors? Et Dieu alors? Depuis avant l'éternité. Depuis que Adam a fait son... Dieu est fatigué, mais il continue, il ne lâche pas l'affaire. Il nous cherche. Le texte que j'ai lu dans 1 Jean, il dit, Comment il manifeste son amour? C'est pas nous qui l'avons cherché le premier. C'est lui qui constamment prend l'initiative de nous aimer. Et même quand nous péchons, c'est lui qui vient encore me dire, mon fils, ma fille, lève-toi. C'est pas terminé. Oui, tu as mal agi. Si tu demandes pardon, je suis capable de te donner encore une énième chance, une millième, une millionième, une milliardième de chance. Il donne autant de chances que le cœur de l'homme est repentant. Autant de fois que nous sommes repentants, Dieu nous donne encore une belle opportunité de mieux faire. Incroyable. Et si vous n'êtes pas convaincu, c'est la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue dit ça exactement. Il dit, voici un fils qui, un matin, dit, papa, t'es gentil, mais voilà. Moi, j'ai compris que j'ai un héritage, tu me donnes mon héritage, s'il te plaît, t'es gentil. Voilà, je suis grand maintenant, je fais ce que je veux. Il dit, y a pas de souci, mon fils, tiens. Et le fils est parti, le test dit, et c'est Jésus qui raconte cette histoire, c'est intéressant, c'est Jésus lui-même qui raconte cette parabole. Il dit, le fils est parti, il a fait belle vie, tu vois, maintenant, comment, je suis un grand monsieur, voilà, je me gère. Papa, il m'embête tout le temps, maintenant que j'ai tout, je suis bien. Sauf que, il n'a pas appris les bonnes leçons de la maison. Donc, le test dit, il a tout dilapidé en un rien de temps, dans n'importe quoi, et il s'est trouvé vite à zéro. Non, même pas à zéro, il s'est trouvé à moins. Moins. Au point où il a été obligé d'être esclave quelque part pour rembourser des dettes. Et là, dans cet esclavage, et Jésus prend une image qui est terrible pour un juif, en fait, travailler une porcherie, c'est tellement dégradant parce que le porc, c'est un animal du, un peu du péché, il est sale. Donc, c'est l'image qu'il est sale. Mais le cochon, il est bon. Mais l'idée générale, c'est ça. Et se trouvant là, il dit, oh, moi, chez mon père, les esclaves qui sont chez mon père, ils ont un meilleur traitement que ça. Donc, même si je suis fou, je vais dire, je vais retourner chez mon père. Je sais que je suis plus digne d'être appelé son fils. Je vais juste lui demander qu'il me traite comme un de ses serviteurs. Ça me suffira largement. Parce que la façon dont mon père traite ses serviteurs, c'est excellent. Et je préfère être serviteur de mon père en me réconciliant un peu avec lui que de rester. Nama, bêtise. L'autre côté du tableau, on dit que le père, chaque matin, il allait sur la route pour voir si son fils qui était perdu revenait à la maison. Chaque matin. Et ce jour-là, de ce matin-là, alors qu'il sort, le fils revient, et le texte dit, c'est lui qui court pour embrasser son fils. Il dit, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ce soir, il y a fête à la maison. Comprenez quelque chose, vous? C'est ça l'amour agapé. On dit l'amour agapé manifeste cet amour et cet amour n'est pas lié à la qualité de la personne aimée. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne est gentille que je l'aime. Sinon, Dieu ne nous a jamais aimés. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes des enfants rebelles. Depuis notre naissance, nous sommes rebelles. Parce que nous naissons avec cette inclinaison à plus faire le mal que le bien. Donc, nous sommes des enfants rebelles. Et pourtant, le prophète dit, bien avant que je sois conçu, tu me connaissais et tu m'as choisi. Un Dieu saint qui ne peut pas toucher le péché est là, aux portes de chacun de nous. Mes frères, vas-y s'il te plaît. Je prêche, quelqu'un dit je prêche dans le désert, non, pas dans le désert. Mais je prêche à des convaincus que vous êtes, que je suis moi-même. Mais la vraie question c'est, arrêtons d'être des convaincus et vivons ces choses-là. Vivons-les. Vous savez, vivre l'amour, c'est pas gagner. Mais c'est ça qu'il faut faire. Quelqu'un m'a dit une fois, et c'est devenu une leçon de vie pour moi, tu connais une belle chose qui a été faite dans la facilité? T'en connais, toi? Quand vous voyez une belle voiture, avec une belle coupe, vous imaginez pas le nombre d'heures que les ingénieurs, que les graphistes, que toute l'équipe a pris pendant des années à dessiner, à modeler, à trouver, et enfin le modèle y sort. Mais c'est des années de recherche. Et ça a demandé beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, et après c'est sorti. Quand on voit une belle construction, c'est pas d'un claquement de doigts, hein, c'est faux. Il y a une étude du terrain. Déjà, il faut avoir le terrain. Le terrain, ça coûte quelque chose déjà. Ensuite, l'architecte, il va se poser. Qu'est-ce que tu veux? Tu lui dis à peu près. Va dessiner. Ça te convient. Avec toutes les modifications. Une fois qu'il a fait ça, il faut l'équipe maintenant qui va construire. Je parle à des personnes qui sont dans le bâtiment. Ça demande du temps, de l'énergie. Et parfois, il y a des échecs aussi. On dit que l'un des grands peintres de notre civilisation, dont, pour ne pas mélanger les noms, l'une de ses plus belles œuvres qu'il a dessinées, c'est quand son village a été détruit dans la guerre. C'est-à-dire, il a dessiné son village détruit par la guerre. Et c'est devenu une de ses plus belles œuvres, parce que ce village, il le portait dans son cœur. Les belles choses, parfois, sont construites dans la douleur. N'est-ce pas? À quel prix nous sommes sauvés? Au prix de la vie du Fils de Dieu. Lui qui était innocent, sans péché. Lui qui a dit, qui me convaincra de péché? Quand les gens sont venus l'arrêter au Gethsémané, il dit, mais j'étais avec vous chaque jour. Je n'ai volé personne, je n'ai tué personne, je n'ai menti à personne. Je n'ai fait que du bien. Et pourtant, vous venez m'arrêter quand même. Ça a coûté la vie d'un gars comme ça. Wow, ça a coûté sa vie. Il dit, on ne me prend pas la vie, mais je donne ma vie pour ceux que j'aime. Il a donné sa vie pour nous. Ça veut donner sa vie, c'est un acte fort. Et Dieu en plus. Dieu, s'il y a quelqu'un qui est fier, c'est Dieu. Mais Dieu accepte de mourir. Or, un Dieu, ça ne meurt pas. Et ça trouble les Grecs, parce que les Grecs, dans leur mentalité, dans leur pensée, dans leur philosophie, un Dieu ne peut pas mourir. Donc, quand on dit Christ est mort, ils disent, mais c'est une aberration. Votre Dieu, il n'est pas puissant. Il ne peut pas mourir. Or, il a accepté cette ignominie. Il n'est pas mort dans son lit. Hein. Je vous le rappelle quand même. Il est mort comme un vulgaire bandit. Il est mort arrêté un matin alors qu'il était avec ses copains. Il est mort pendant qu'on lui faisait un procès injuste et qu'il n'avait personne pour le défendre. Et quand même, il a sorti ses arguments de défense. On dit, tais-toi, t'es condamné d'avance. On l'a fait passer dans tous les tribunaux et même ceux qui sentaient qu'il était innocent, ils ont dit, c'est un peu compliqué. On est obligé de te lâcher à la foule. Il y a une des dames même intelligentes qui a dit à son mari, cette affaire, c'est trop compliqué. Lave-toi la main dedans parce que ce monsieur, c'est injuste. Et il a dit, moi je me lave la main, je suis plus du sang de ce juste parce que pour moi, il est innocent. Mais comme vous voulez le tuer, tuez-le. Et si on l'avait juste tué, encore, on l'a bastonné. On l'a bastonné de la bastonnade la plus cruelle de l'époque. On ne l'a pas que bastonné. On l'a dit, c'est pas suffisant. Tu vas agoniser sur le chemin, là, on va aller te faire encore plus mal. Prends ce poutre de bois qui pèse des kilos, porte-la. Alors qu'il est en train de saigner de tous les côtés. Parce que le fouet dont on parle, c'est un fouet qui était fait à dessein. Vous savez, le dessein, c'est quoi? C'est que on lacère vos veines. Pour que la vie sorte de vous. Le sang, c'est la vie. Donc, ce fouet, il était fait en sorte que le corps soit tellement lacéré que toutes les veines soient déchirées. C'est de ça qu'il s'agit, les bien-aimés. C'est par amour qu'il a porté ça. Les femmes sur le chemin, les femmes ont dit, on a pitié. Il dit, n'ayez pas pitié de moi, ayez pitié pour vos enfants. Car c'est pour cette heure que je suis venu. Il dit, comme un mouton qu'on met dans l'abattoir, il n'a dit aucun mot. On l'a mis couché sur cette croix. On lui a enfoncé des clous, je ne sais pas de combien de centimètres dans les poignets. Et c'était fait à dessein. Il semble que cette pression que les Romains ont calculé, c'est une pression qui te tue. Et tu sens la douleur parce qu'en fait, comme tu as été si mauvais, on veut te faire sentir que être mauvais là, c'est encore pire. Donc, on veut concentrer toute la douleur jusqu'à ce que tu meurs. C'était ça l'idée de cette croix. C'était comme tu as été mauvais là. On va te tuer de la plus horrible des façons. Christ est mort de la plus horrible des façons, et bien aimé. Il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour nous. Donc des fois, quand nous vivons en famille, en couple, en frères et sœurs, passons sur des choses. Il y a des choses qui ne méritent pas notre colère ou notre vengeance. Passons dessus, parce que Christ a fait. Passons dessus. Nous sommes des chrétiens, ou bien je me trompe. Dieu est amour. Or, Dieu, c'est qui? C'est notre Père. Donc, si notre Père, son essence, c'est d'être amour, il a mis au monde des enfants qui doivent avoir aussi cette essence. On dit que nos parents nous donnent leur gène. Donc, si Dieu nous a donné son gène qui est amour, pourquoi on a tant de mal à être constant dans la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies? Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Tu peux arrêter cette. Mais la deuxième, on va terminer. Je demande la grâce de Dieu pour ma vie moi-même, mais pour la vie de l'Église. Je prie que l'Église fasse la démonstration qu'elle est l'Église du Dieu vivant. Je prie que les chrétiens fassent la démonstration dans un monde où il y a tant de désespérance, où il y a tant de violence, où il y a tant de conflits. Je prie que nous, les chrétiens, nous fassions la différence. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. On en a besoin. En plus, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais on dit, on n'a pas besoin de toi. En fait, c'est ce qu'on dit au Saint-Esprit. Parce que dans des moments difficiles comme ça, c'est là qu'il veut qu'on l'invite, que tu prennes du recul, que tu te calmes. La Bible dit qu'à la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Quand tu traverses des moments où tu as été irrité, peut-être à raison, prends du temps. Recule, recule. Dans les fruits de l'esprit, il y a la patience. Dans le fruit de l'esprit, il y a la longanimité, il y a la bienveillance. Dans le fruit de l'esprit, il y a l'amabilité, il y a la douceur. La douceur n'est pas le contraire de la rigueur. Non, la rigueur n'a rien à voir avec la douceur. On peut être doux et rigoureux. Ce n'est pas des contraires. Non. Mais la douceur, c'est le caractère de quelqu'un qui dit, je veux donner du temps. C'est ça, être doux. Jésus dit quoi? Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger, car je suis doux et humble de cœur. Ça, je l'ai donné aux dames lors de la retraite des femmes. Vous vous en souvenez, le guide d'évaluation de quoi? De la capacité d'aimer. Guide d'évaluation de la capacité d'aimer. Donc, c'est un petit tableau qui aide. Je l'ai dit à la retraite des femmes, moi, j'aime parfois des outils comme ça qui m'aident à me poser et à faire le point. Je peux dire que j'ai grandi dans mon amour, mais comment je le sais? Par contre, si j'ai un outil comme ça, il m'aide. L'un des premiers points sur cet outil-là, vas-y, monte un peu. C'est mon amour pour Dieu. Et c'est formulé avec des versets bibliques. Et la première question, c'est mon amour est-il en réponse à Dieu qui m'a aimé en premier et m'a sauvé? Est-ce que je me suis tourné à Dieu parce que j'ai compris que Dieu m'a aimé le premier? Ou bien juste parce que Dieu m'a béni? Vous savez, Dieu, on peut dire Dieu m'a béni, mais ne pas comprendre que c'est par amour qu'il m'a béni en fait. Parce que je ne mérite pas sa bénédiction, en fait. Qui la mérite d'ailleurs? Qui la mérite? La priorité dans ma vie est-elle d'aimer Dieu? Ça, c'est une belle question. Est-ce que la priorité dans ma vie, c'est d'aimer Dieu? Et ça revient au verset, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si on aime Dieu, parce que quand on dit on adore Dieu, ça dit, c'est lui le premier. Dans toutes les considérations de ma vie, c'est lui le premier. C'est ça, aimer Dieu, c'est ça, adorer Dieu, c'est lui le premier. Et c'est pour ça que Jean dit dans cette épître, 1 Jean, il dit, si quelqu'un aime Dieu là, naturellement, il va aimer son prochain. Donc, plus nous aimons Dieu, plus nous aimons notre prochain. Donc, plus on grandit dans l'amour de Dieu, plus on grandit dans l'amour du prochain. Or, souvent, c'est le contraire. Des frères et des sœurs, comme nous autres, on dit, tellement de fois, j'aime Dieu. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et de l'autre côté, là, ah, bagarre, combat. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ce que tu dis du bout des lèvres, il y a quand même une limite à ça. Donc, une façon de voir que ton amour de Dieu grandit, c'est la façon dont tu grandis dans l'amour de ton prochain. Mon amour pour le prochain en général, ça c'est la deuxième rubrique. Est-ce que, selon le commandement semblable au premier, j'aime mon prochain comme moi-même? Belle question. C'est les disciples, mais ils ont compris que c'était difficile. Ils disent, Seigneur, ta parole est trop difficile. Parce qu'aimer son prochain comme soi-même là, ça veut dire, même quand on a tort là, on se pardonne nous-mêmes. C'est-à-dire, on a tenu nos torts. On parlait de ça avec Caroline. Souvent, tu as fait un reproche à l'enfant, mais en fait, tu as eu tort, parce que l'enfant, il avait raison. Mais comme on est parents, pour demander pardon, souvent, c'est compliqué. Donc, on cherche des... Et souvent, on a formulé, oui, mais comme d'habitude, tu fais ça. Mais ça, c'est pas d'habitude, il n'a pas fait ça aujourd'hui. Donc, dis-lui simplement, on s'excuse, on s'est trompé. C'est aussi... Même pour formuler ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Or, nous-mêmes, quand on fait des choses, on a tenu vite. Hein. Souvent même, on passe vite fait dessus. Comme pour dire, circuler, il n'y a rien à voir. Il s'agit de moi. Donc, aimer, c'est ça. Est-ce que je suis capable que Dieu m'aide? Voilà les bien-aimés. Au risque d'être long. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On essaie d'être un peu écolo. Donc, je n'ai pas fait de photocopie parce que si vous voulez cet outil, je ne parle pas des dames qui étaient à la tête. Les dames qui étaient à la tête, vous avez tous. Mais tous ceux qui n'ont pas cet outil, ce guide de capacité, vous venez me voir à la fin du culte. On fera les tirages et vous pourrez l'avoir pour travailler à ça avec des versets bibliques pour voir où vous en êtes. C'est comme une jauge pour voir comment tu avances. Ce n'est pas la Bible, mais c'est un outil qui peut aider dans tout ce qu'on a dit sur l'amour agapé, l'amour de Dieu et de concernant. Amen. Prions. Recording stopped. Seigneur, que tu nous aides. Nous voulons être vraiment tes enfants. C'est ce que nous sommes du reste. La Bible dit, ce n'est pas par nos œuvres que nous avons été sauvés. C'est par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. C'est toi encore qui nous as sauvés. Par ton amour. Parce que tu nous aimes. Seigneur, notre prière ce matin, aide-nous à continuer de grandir dans ton amour et dans l'amour de notre prochain. Donne-nous de manifester que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean pouvait dire, par l'amour que vous manifesterez les uns envers les autres, le monde saura que vous êtes les enfants de Dieu. Aide-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et du reste, si on vit dans ton amour, on fait du bien à ceux qu'on aime. À plus forte raison, à ceux qui nous font du mal. Je veux vraiment que tu nous aides, Seigneur. Viens à mon secours, viens au secours de mes bien-aimés. Viens au secours des couples, de notre église, des familles. Viens au secours de tous ceux qui ont été au bénéfice de ce message ce matin. Pour que nos vies continuent d'être pétries, enrichi, façonné, modélé dans l'amour de Dieu, en Jésus-Christ. Amen.
Donc merci à nouveau pour ce message de la parole de Dieu. Et si nous sommes chrétiens, nous servons Christ, donc nous devons le ressembler. Et bien souvent, malheureusement, nous mettons toutes sortes de choses dans nos vies qui ne sont pas de Dieu et nous laissons Jésus en périphérie. Nous voulons vraiment que Jésus soit le centre de nos vies, de tout ce que nous faisons. Jésus soit le centre de nos vies.
Sois ma lumière, sois ma source, Mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
Pendant que le panier va circuler pour les offrandes, je vous invite à vous asseoir. Je vais rappeler notre pasteur Serge pour les prières pour les offrandes, la bénédiction, et notre frère Claude juste après.
Notre engagement commun pour soutenir notre Église dans tous les aspects de son ministère. La fiche qu'elle a présentée, elle a dit que ça allait être collé sur le tableau de fond. Donc, vous l'avez sur le tableau. Moi, c'est à ma droite, en bas à droite. Donc, vous avez le diagramme et les chiffres pour nous aider, non seulement dans la prière, mais vous savez.